Salut à tous, c'est Jérémy Royot pour Scepticisme Scientifique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être dans les locaux de l'Université Libre de Bruxelles avec Olivier Klein. Bonjour.
Bonjour.
Donc, Olivier Klein, vous êtes professeur à l'ULB, docteur en psychologie, et vous dirigez le Centre de psychologie sociale et culturelle de l'ULB.
Oui.
Voilà. Alors, je suis venu aujourd'hui vous rencontrer pour parler de deux de vos études que vous avez publié avec d'autres chercheurs. On pourra revenir sur les détails. Donc, ils sont des études qui étudient donc la mémoire collective et les émotions liées aux accusations qui ont été portées contre Léopold II, premier roi des Belges, concernant ses agissements au Congo pendant la colonisation. Plus précisément, on parle ici du contenu d'un livre d'Adam Hochschild qui s'appelle « Le fantôme du roi Léopold ». Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter un petit peu ces recherches, d'où vous est venue cette idée, dans quel cadre ça s'inscrit?
Oui, donc peut-être résumer un peu en quelques mots l'histoire alors de la colonisation belge au Congo.
Très bonne idée.
Donc, en gros, l'exploration de l'intérieur du Congo, même si les côtes étaient déjà connues, ça se fait dans les années 1850, et donc c'est des expéditions à partir entre 1850 et 70, donc sont des expéditions dirigées par Stanley notamment, qui sont financées par Léopold II. Et donc Léopold II qui était vraiment très attaché à l'idée d'avoir une colonie pour la Belgique, et il va obtenir dans les années 1884 de contrôler ce qui aujourd'hui est le territoire correspondant à la République démocratique du Congo. Et donc ça va être la propriété privée de Léopold II, c'est-à-dire que c'est une région qui n'appartient pas à la Belgique, c'est sa propriété privée. Et pendant cette période-là, il va y avoir toute une série d'exploitation des ressources, notamment le caoutchouc. On va aussi avoir une construction de chemins de fer qui vont se traduire par du travail forcé. L'occupation des territoires va aussi évidemment se traduire par des comportements pas toujours très très catholiques vis-à-vis des autochtones. Ces exactions vont être dénoncées dès les années 9-10, notamment par des Anglais, Morel notamment, Edmund Morel. Et finalement, ça va en fait presque obliger Léopold II à céder sa colonie à la Belgique en 1908. Et la Belgique reprend donc la gestion du Congo. Il y a quand même une certaine continuité avec l'administration qui avait été mise en place par Léopold II. Et cette idée d'exaction au Congo, de travail forcé, notamment, ne va pas vraiment rester dans la mémoire collective belge jusqu'au moment où nous, on s'y est intéressés. Et donc, le livre d'Hochschild, donc, qui date des années 90, je crois que c'est
98,
va en quelque sorte réveiller ses plaies en reprenant les accusations de Morel. Donc, c'est pas du nouveau, en fait, ce contre Hochschild. Il va reprendre toutes ces accusations. En fait, il va très fort se baser sur les travaux d'un ancien administrateur colonial qui s'appelle Jules Marshall, mais qui a fait des livres qui sont très, très difficiles à lire, qui ont eu très peu de diffusion. Il va les reprendre et en faire un vrai best-seller en anglais qui va avoir une grande portée internationale. Et donc, beaucoup de Belges vont découvrir les exactions du régime léopoldien à travers le livre d'Hochschild. Et donc Hochschild va jusqu'à faire des accusations qui semblent quand même un peu outrancières, allant jusqu'à dire que la colonisation belge du Congo, responsable de 10 millions de morts, notamment maladies, morts dues au travail forcé, etc.
Il utilise même le terme holocauste, qui est vraiment
oui,
un terme très, très
fort. Il parle d'holocauste. Donc c'est une question très forte qui sont assez intéressantes du point de vue de la mémoire collective, parce qu'on pourrait se dire que la Belgique, en tant que petit pays, n'a peut-être pas accompli grand-chose dans son histoire. Et se dire que la colonisation du Congo, qui est quand même un pays énorme, ça pourrait constituer une de ces grandes réalisations historiques. Et en même temps, c'est quelque chose que les gens connaissent pas bien, qui est très peu enseigné. Et donc, quand vous tombe dessus cette accusation par rapport à quelque chose qui finalement n'était pas très fortement ancré dans la mémoire collective, on se demandait un peu à cette époque-là comment les gens allaient réagir par rapport à ça. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est intéressé à cette question. Et donc, on a voulu vraiment, à cette époque-là, donc, je dirais début des années 2000, on a voulu s'intéresser au point de vue des anciens coloniaux, d'une part, qui au début des années 2000 étaient encore quand même très actifs, et aussi aux anciens colonisés. Et là, pour des raisons purement, je dirais, budgétaires, à l'époque, on a été juste voir des Congolais qui vivaient en Belgique. On s'est pas déplacé au Congo. Voilà, donc ça, je dirais que c'est comme ça qu'on s'y est intéressé avec nos étudiants. Une autre raison de nous y intéresser, c'est que moi, j'ai pas mal travaillé sur les discours de Lumumba. Et donc, de nouveau, dans Lumumba, chez Lumumba, on a un passage d'une rhétorique pro-coloniale, en quelque sorte, à une rhétorique anticoloniale. On dirait vraiment qu'il passe d'un côté à l'autre dans son existence, quoi.
Ok. Et du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment vous avez conçu cette recherche, globalement?
Je dirais que c'est pas une recherche toute seule, hein. C'est vraiment un programme de recherche qu'on a mené ensemble. Okay. Et donc, la toute première recherche qu'on a fait directement là-dessus, ce sont des entretiens avec des anciens coloniaux et des anciens colonisés. Donc, on voulait des gens qui étaient adultes avant 1960 et l'indépendance du Congo. Donc, ça, c'est des entretiens qualitatifs. Alors, ça, c'est la première recherche qu'on a faite. Ultérieurement, on a fait d'autres recherches. On a fait une recherche où on a comparé des jeunes, je dirais c'était un échantillon non représentatif, mais c'était la génération d'étudiants de l'époque, je dirais en 2005 à peu près, et des retraités. Et donc on voulait juste voir la différence entre leur point de vue. Après, on a fait une recherche de ce type-là, mais plus contrôlée. On a demandé aux étudiants de remplir un questionnaire sur leur perception du Congo. Et une notion assez importante, surtout dans la littérature psychosociale à l'époque, c'était la notion de culpabilité collective. On s'interrogeait vraiment sur la validité de cette notion et on voulait la comparer chez des étudiants, chez leurs parents. Donc, ils devaient distribuer le questionnaire à leurs parents et à leurs grands-parents. Et donc, on a voulu voir s'il y avait un temps d'effet générationnel sur la représentation du Congo. Ça, je dirais que c'est la plus grosse recherche qu'on ait faite. On a aussi fait des comparaisons. On a pu interroger des Congolais via une étude internationale et des Rwandais sur la perception de la colonisation aussi, avec des questionnaires également. Donc ça, c'est des recherches quantitatives qu'on a faites.
Okay. Est-ce que vous pouvez un peu définir culpabilité collective?
Alors, la culpabilité collective, c'est une notion assez controversée, mais c'est l'idée que on pourrait se sentir coupable de comportements qui ont été effectués par des membres de notre groupe dans le passé ou même dans le présent. Mais donc, si on s'identifie à un groupe et que des membres de notre groupe ont commis des exactions, est-ce qu'on ressentirait un sentiment de l'ordre de la culpabilité, même si on n'est pas soi-même directement responsable de l'acte en question?
Okay.
Et donc ça, c'est une notion qui a commencé justement à être étudiée en psychosocial à la fin des années 90, exactement à la même période. Et donc des collègues hollandais avaient montré que des jeunes étudiants hollandais qui n'y connaissaient rien à l'histoire de leur pays, si on leur présentait des récits relatifs au comportement des Néerlandais en Indonésie pendant la colonisation pouvaient ressentir de la culpabilité collective. Donc, il y a des échelles qui, en psychologie, on se concentre avec des échelles, des questionnaires, et donc on voit que la moyenne des réponses fait état d'un sentiment de culpabilité collective plus élevé lorsqu'on présente. Alors, ce qui est intéressant dans leur recherche, c'est que ils présentaient cette histoire de trois façons différentes, ce qui était pratique parce que comme les étudiants n'y connaissaient rien, on pouvait presque raconter n'importe quoi. Mm-hmm. Soit ils présentaient une histoire mettant en évidence les effets positifs de la colonisation, soit les effets négatifs de la colonisation, mm-hmm. soit une vision beaucoup plus nuancée qui mettait en exergue les deux aspects. Alors ce qui est très intéressant, c'est que les gens qui s'identifiaient fort aux Pays-Bas, ils n'étaient pas influencés par cette manipulation, ils ne ressentaient pas plus de culpabilité collective dans un cas que dans l'autre. La culpabilité collective, c'est un sentiment qui est très difficile à accepter, je veux dire. Mm-hmm. On va généralement le rejeter, c'est très facile de dire « c'est pas moi, c'est eux mm-hmm. ». Ceux qui ressentaient de la culpabilité collective, assez paradoxalement dans cette étude-là, c'est ceux qui s'identifiaient moins à leur pays. Mm-hmm. Mais uniquement lorsqu'on présentait le passé de façon nuancée. C'est-à-dire que dans la condition à laquelle on le présentait de façon très positive ou très négative, ce sentiment n'émergeait pas du tout. Donc on peut s'imaginer que on va rejeter cette culpabilité collective si le passé est présenté de façon trop négative, mm-hmm. parce que c'est vraiment... Et quand c'est présenté de façon très positive, il n'y a pas de raison évidemment de ressentir la culpabilité collective. Donc la seule façon d'accepter le sentiment... Ça, c'est ce que suggéraient les auteurs à l'époque, c'est finalement de finalement enrober ce qu'il y a de négatif dans le positif. C'est ce qu'eux avaient montré. Mm-hmm. Donc je dirais que ça, c'est un peu le contexte général dans lequel se situait nos recherches.
Et donc, eux pensaient donc, si je comprends bien, qu'au plus que les gens étaient attachés à leur identité en tant que pays, que nation, au plus, ils avaient du mal à accepter du coup les négatifs qu'on pouvait dire sur leur appartenance.
Tout à fait. Donc, alors nous, on a après développé cette idée-là. Donc, mm-hmm. c'est-à-dire qu'après, on a fait une recherche où on s'est dit, il y a un petit problème dans la façon dont eux appréhendent le problème. Alors, mm-hmm. le premier problème, c'est que les Hollandais, ils s'identifient à peu près tous. Je veux dire, l'identité néerlandaise est beaucoup plus forte, par exemple, que l'identité belge.
Ok.
Si on interroge des Belges, on a beaucoup qui s'identifient pas du tout à la Belgique. Mm-hmm. Et donc, nous, on s'est dit, pour ressentir la culpabilité collective, il faut quand même un minimum d'identification. Sinon, ça n'a pas de sens, je veux dire. Mais, d'un autre côté, si on s'identifie très fort, c'est particulièrement menaçant de ressentir la culpabilité collective. C'est quelque chose qui vraiment remet en question notre identité. Donc, on va peut-être rejeter ce sentiment. Et c'est effectivement ce qu'on a trouvé. En fait, on a ce qu'on appelle une relation curvilinéaire, c'est-à-dire que les gens qui s'identifient dans l'étude générationnelle, hein, donc, mm-hmm. On avait, je crois, 300 personnes de trois générations différentes, on observait que les gens qui s'identifiaient pas, ils ressentaient aucune culpabilité, ou ceux qui s'identifiaient peu, ce qui est normal. Mm-hmm. Ceux qui s'identifiaient très fort, ils n'en ressentaient pas non plus parce mm-hmm. qu'ils la rejetaient. Ceux qui ressentaient le plus de culpabilité ou qui exprimaient le plus de culpabilité, c'est ceux qui sont au milieu. Mm-hmm. Parce que là, ils s'identifient suffisamment pour en ressentir, mais pas assez pour que ce soit totalement insupportable d'exprimer de la culpabilité. Mm-hmm. Enfin, c'est notre interprétation des mm-hmm. résultats.
Et est-ce que, ça, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, mais est-ce que, donc, par exemple, dans les gens qui s'identifiaient très fort à cette identité nationale, est-ce que à l'intérieur de ce groupe, vous avez pu avoir une vision un peu différentielle, c'est-à-dire est-ce qu'on parle là simplement d'une généralité, ou est-ce que au sein de ce groupe, il y avait quand même des gens qui peuvent avoir une identité très forte, intégrer une identité très forte, mais qui en même temps étaient capables de ressentir cette culpabilité, de l'exprimer, ou est-ce que c'est très généralisable?
Alors ça, c'est le défaut un peu de ce genre d'approche quantitative, c'est que ce que je vous raconte, c'est des tendances moyennes sur mmh. l'ensemble de l'échantillon. Donc, il y a toujours de la variabilité, bien sûr. Mmh. Mais les tendances moyennes sur l'ensemble de l'échantillon sont celles-là. Donc, il y a sans doute des gens qui peuvent ressentir un fait de culpabilité parmi les plus identifiés, mais il y en a moins que chez les modérés et moins identifiés, ouais. Si vous voulez.
C'est ça, on parle vraiment de moyenne.
Ouais.
Ok. Je peux pas m'empêcher, en vous entendant, de faire le parallèle entre ce dont on est en train de parler ici et les réactions par rapport à tout ce qu'on peut entendre autour des discriminations, féminisme, racisme, etc. J'imagine qu'il y a un mécanisme relativement commun là-dedans aussi, puisque ici on parle d'identification par rapport à l'histoire coloniale. Quand on parle de racisme, on parle d'identification aussi aux actes racistes qui faisaient partie de notre culture avant, la culture dont on fait partie. Pareil pour le sexisme. Est-ce que c'est un mécanisme finalement assez commun?
Bah, disons que nous, on travaille beaucoup sur le racisme, sur le préjugé. On s'intéresse à ça avant de s'intéresser au Congo. Donc, c'est vrai qu'il y a déjà dans nos intérêts une continuité. Et c'est clair que dans le racisme et dans le sexisme, la notion d'identification à son groupe est tout à fait déterminante. Mmh. Donc, mais la différence peut-être, c'est que le rapport au passé est peut-être moins explicite. C'est-à-dire que souvent, quand on est dans des attitudes et dans des préjugés, par exemple sexistes, on voit souvent la réalité telle qu'elle est maintenant. Le rapport à la mémoire collective, il peut aussi jouer. Par exemple, dans le néo-sexisme, par exemple, qui est une forme de sexisme plus acceptable socialement aujourd'hui, il y a cette idée que regardez tout ce qu'ont déjà obtenu les femmes aujourd'hui par rapport au passé, donc qu'elles arrêtent de se plaindre. Donc on a un discours de ce type-là et qu'on peut aussi transposer dans le cadre du racisme, mais c'est un peu d'un autre ordre que j'ai l'impression que ce qu'on décrit par rapport à la colonisation qui est clairement situé dans le passé. Et j'ai l'impression que la transposition entre la colonisation et le présent, surtout en Belgique, est moins évidente. Parce que finalement, la minorité... Chez nous, le racisme est un problème qui se pose surtout vis-à-vis des personnes d'origine nord-africaine, qu'on n'a pas colonisé. Et donc, il n'y a pas cette espèce de transposition entre ma perception de la colonisation et le racisme que je pourrais ressentir vis-à-vis d'eux, qui est peut-être plus présent en France, où finalement, on peut se dire, s'ils en sont là aujourd'hui, c'est peut-être un peu à cause de nous dans le passé, vu que la minorité algérienne est dominante parmi les Nord-Africains en France. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? le truc qu'on a trouvé, qui est très très clair dans tous les résultats, c'est clairement un effet générationnel. C'est-à-dire que plus on est jeune, plus on a une vision négative de la colonisation. Donc, c'est un phénomène assez classique. C'est que, ce qu'on observe, en fait, c'est les cadres sociaux de la mémoire qui ont changé. On est passé... Donc, les gens les plus âgés dans nos échantillons, donc il y a des gens, je dirais, ils avaient 60, 70 ans, fin des années... ou 2007, 2008, je ne sais plus exactement à quel moment. Donc, c'est des gens qui, dans leur socialisation, ils vivent dans un cadre plutôt pro-colonial. En tout cas, dans un contexte dans lequel l'idée que la Belgique est la meilleure des colonies, c'était une idée très, très développée après la Deuxième Guerre mondiale, que on développait les compétences des Congolais à travers un système éducatif, de santé, etc. Donc, cette idée-là est quand même assez présente. C'est des gens peut-être que c'est plus en contact avec des personnes qui étaient ou qui revenaient du Congo. Donc, vision généralement plus positive que les jeunes qui souvent ont une connaissance très très limitée de la colonisation et qui à la limite ont des discours assez généraux qui consistent la colonisation c'est pas bien. Je connais pas spécifiquement la colonisation du Congo, mais la colonisation c'est pas bien, donc c'est un discours hyper négatif sur la colonisation, et donc la génération des parents est entre les deux, quoi. Donc ça c'était vraiment ça c'est vraiment ce qu'on a observé. Et comment ça s'articule? Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une sorte de questionnaire sur tous les comment ils voyaient la colonisation sur différentes dimensions. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'ils voyaient la colonisation, par exemple, comme une tentative d'exploiter les populations locales, d'exploiter les ressources, comme quelque chose qui servait qui a permis de développer les compétences des Congolais? On prenait toutes ces dimensions qui, en fait, étaient extraites de des entretiens qu'on avait faits dans les recherches précédentes.
Okay.
Et donc, une fois qu'on a toutes les réponses à ces questions, on peut utiliser une technique statistique qui s'appelle l'analyse factorielle, qui consiste, en gros, à essayer de voir quelles sont les réponses qui sont corrélées ensemble. Mm-hmm. Et on a pu mettre en évidence clairement deux facteurs dans la représentation de la colonisation. Un facteur qui voit la colonisation comme une entreprise d'exploitation, mm-hmm. et un autre qui la voit plus comme une entreprise de développement. Mm-hmm. Donc il y a ce qu'on a appelé civilisation, c'est le discours sur l'idée que la colonisation sert à civiliser les peuples. Et l'autre, c'est la vision anticoloniale classique. Et donc, une fois qu'on a ça, on peut regarder chez chaque sujet comment il se situe sur ces deux dimensions. Et ce qu'on observe, clairement, c'est que les personnes les plus âgées mettent plus en valeur la dimension civilisation, développement, que la dimension exploitative, alors que c'est l'inverse chez les jeunes. Mmh. Et donc ça explique en grande partie leurs attitudes différentes et le fait que, bien sûr, la culpabilité collective soit beaucoup plus forte chez les jeunes que chez les plus âgés.
Mmh. Ok. Et donc du coup, comment est-ce que vous avez expliqué avoir cette différence? Précisément.
Je pense que la notion d'identité est une explication intéressante, c'est-à-dire que pour les plus âgés, c'est tous des Belges qu'on a interrogés, donc c'est ouais. Cette notion d'identité, l'entreprise coloniale est quelque chose qui est lié à l'identité belge aussi. Mmh. Et donc on trouve effectivement chez les grands-parents une corrélation très forte entre l'identité nationale et le fait de voir la colonisation comme une entreprise de développement, mmh. et une corrélation négative entre l'identification nationale et le fait de voir la colonisation comme une entreprise exploitative. Alors que chez les jeunes, cette corrélation est beaucoup plus faible. Donc ça veut dire que, finalement, ils peuvent totalement dissocier l'entreprise coloniale de leur identification à la Belgique. Mmh. Alors que pour les plus âgés, qui en plus s'identifient plus à la Belgique, mmh. C'est vraiment quelque chose qui est associé à leur identité. Et donc, c'est un aspect, si on veut chercher une explication motivationnelle, celle-là, elle intervient. L'autre grande explication, c'est clairement la socialisation. Finalement, on a appris des choses différentes sur la colonisation. Et les jeunes, ils n'ont, à part un discours global anticolonial dans lequel on est tous baignés, on leur a demandé combien de temps ils ont passé, combien de temps ils ont consacré à l'école à parler d'acolytisation. C'était ridicule, c'était mmh. quelques heures, une ou deux heures souvent, et donc ils ne savent rien sur cette période. Mmh. Donc je pense que l'explication principale, c'est la socialisation, et je pense que l'identification à la Belgique aussi peut jouer un rôle dans l'explication.
Mmh. Du coup, cette socialisation, j'imagine qu'elle passe du coup par les contenus qui sont les contenus ou les narrations qui sont enseignées notamment à l'école, alors
notamment à l'école, mais je pense aussi alors là on n'a pas étudié ça en détail, hein, mais c'est mm-hmm. vrai que si on regarde le manuel scolaire par exemple, les choses ont vraiment changé radicalement. Mm-hmm. Mais c'est clair que dans l'étude, on a accompagné des retraités de jeunes, on a demandé comment la colonisation avait été présentée. Et les jeunes rapportaient qu'elle avait été présentée de façon plus négative que les plus âgés. Donc ils ont une vision plus positive de la colonisation, les plus âgés. Alors, à mon avis, il n'y a pas que l'école. Il y a aussi des réseaux de socialisation qui dépassent l'école. On a des proches, on connaît des gens. Il y a les médias, je veux dire, t'as au Congo, il y a toute une série de médias qui vont favoriser ça.
C'est vrai que cette idée un peu anti-colonialisme, elle est assez présente maintenant, de manière directe ou indirecte, ouais. Dans tout ce qu'on peut un peu entendre. Même si à l'école, faudrait voir, Parce que parfois, ça évolue très très vite en 10 ans, ça peut parfois très fort changer, ouais, le manuel scolaire. Moi qui suis aux alentours de 35 ans, je me rappelle que... Enfin, la seule chose que je me rappelle sur Léopold II, c'est qu'on nous avait dit qu'à un moment, il était propriétaire du Congo, puis qu'il avait cédé à la Belgique. Mais je me rappelle bien qu'on a... C'était très neutre, en fait. Voilà, c'était... Il avait été propriétaire du Congo, il y avait eu de l'industrie, etc. Et c'est tout ce qu'on en savait. Ouais. On parlait pas du tout de violence, de vécu des gens. C'était un non-dit, en fait. Et du coup, c'est seulement plus tard, à ce moment-là, qu'on entend effectivement, par d'autres sources, dans d'autres milieux, qu'on entend ces critiques sur la colonisation et qu'on se dit, ah oui, tiens, il y avait du négatif à la colonisation. Ouais. Maintenant, je ne sais pas aujourd'hui, les jeunes qui sont avec eux aujourd'hui, ce qu'on leur enseigne en Belgique, mais...
Je pense que c'est un peu plus critique et qu'on évoque ces exactions, mais ça ne prend pas une place très importante dans le cursus scolaire.
Mmh. Tout à fait. Ouais. Du coup, c'est parfois difficile de savoir finalement quels sont les différents facteurs qui influencent cet enseignement. Parce qu'il y a les enseignants eux-mêmes qui peuvent être sensibilisés aux choses, mais après, il peut y avoir aussi une question de volonté au niveau des gens qui écrivent ces manuels scolaires ou qui donnent des directives de ce côté-là. Parce qu'on sait notamment, par exemple, pour d'autres pays où il y a eu des débats autour de questions de reconnaître des exactions comme ça dans le passé, que parfois, il y a des situations aussi où tout le monde s'est un peu mis d'accord pour dire qu'il n'y avait pas trop d'intérêt à faire publiquement des reconnaissances de ces exactions, parce que d'un point de vue des relations internationales, ça amènerait plus de négatifs qu'autre chose, parce qu'entre-temps, il y avait eu des alliances très intéressantes qui avaient été faites entre guillemets, l'oppresseur et oppressé, et que du coup, ils n'avaient plus intérêt, 30 ans ou 50 ans plus tard, à enseigner que les gens avec qui maintenant ils avaient une très bonne relation, les avaient colonisés ou opprimés.
Ouais.
Avant.
Je pense que en l'occurrence, pour les relations entre la Belgique et le Congo, ça ne se pose pas trop cette question-là. Ce qu'il y a aussi dans l'enseignement de l'histoire en communauté française, c'est que on axe très fort sur les compétences plus que sur un savoir. Et donc l'idée, c'est d'encourager souvent les élèves à être capables d'être critiques, d'analyser un texte et des choses comme ça. Et donc, finalement, quand on s'intéresse à cette problématique-là, il y a quand même une série de faits à connaître ou à savoir. Et donc, je suis pas sûr que la connaissance chronologique et factuelle de l'histoire de la colonisation soit compatible nécessairement avec le type d'objectif pédagogique. Ouais. Qu'on encourage aujourd'hui dans les cours d'histoire.
C'est possible, tout à fait. C'est vrai que comme ça, en vous entendant, je repense aussi à d'autres contenus d'histoire. Je pense par exemple aux croisades. Bah, c'est un peu pareil ce qu'on enseigne dans les croisades. C'est factuel, en fait. Et on parle pas de qui a abusé de qui ou qui a... Ouais. C'est juste très factuel. Il y a eu des croisades pour telle ou telle motivation. Et puis voilà.
Ouais.
Peut-être qu'il y a aussi un changement dans l'importance qu'on donne à justement se préoccuper du respect ou du vécu des autres groupes, des autres cultures, etc., qu'il y avait peut-être moins aussi avant.
Oui, donc ça, je pense que maintenant, c'était une préoccupation claire. C'est que, c'est que finalement, on a des minorités pour qui peut-être l'histoire de Belgique de papa ne parle peut-être beaucoup moins, vu que ce ne sont pas leurs ancêtres qui ont vécu ça. Donc il y a tout un enjeu dans l'enseignement de l'histoire par rapport à un public beaucoup plus diversifié culturellement et dans ses origines. Donc ça, c'est tout un débat effectivement très très important et qui oblige les professeurs d'histoire à relativiser leur enseignement.
Mmh. Okay. Une autre chose aussi qui ressort bien finalement de ce genre d'études, mais qui est évidemment au cœur de la psychologie sociale et culturelle, c'est cette idée que même quand on pense finalement qu'on est rationnel ou qu'on est un peu maître de l'analyse qu'on fait des choses, finalement on est aussi beaucoup influencé par d'autres facteurs qu'on n'a pas forcément à l'esprit consciemment, comme ces questions d'identification nationale et autres.
Oui, donc ça c'est vraiment le cœur de la psychosociale, c'est cette idée que la finalement, la situation est souvent plus importante que la personnalité dans ce genre de phénomène. Et bon, les expériences sur la culpabilité collective montrent ça aussi. Je veux dire, on va rendre saillant l'un ou l'autre contexte et les gens vont finalement varier dans leur représentation de la colonisation selon le contexte dans lequel ils sont.
Du coup, c'est aussi une difficulté pour faire connaître, enfin pour répandre un peu ces connaissances, parce qu'il y a quelque chose de difficile dans le fait d'admettre qu'on n'est pas si rationnel que ce qu'on pensait, en fait, hein, d'admettre qu'on est influencé par plein de choses. C'est narcissiquement, c'est un peu difficile, quoi.
Oui, c'est un problème général en psychosocial, c'est que finalement on passe beaucoup de temps à montrer que les gens sont moins rationnels qu'ils le croient. Et donc là, il y a vraiment un enjeu aussi de vulgarisation scientifique. C'est pour ça que nous, on ne l'a pas fait pour la colonisation, mais parfois, par exemple, récemment, on a fait une petite étude en ligne très fort diffusée pour montrer que les gens, finalement, étaient plus crédules qu'ils ne le croyaient. Et donc, il faut finalement se rendre compte qu'on est crédule pour l'accepter. Et sinon, on est souvent un peu convaincu de sa propre rationalité. Et on trouve parfois, d'ailleurs, que plus on est convaincu de sa rationalité, plus on est irrationnel.
Oui, nous, quand on essaie de vulgariser des infos sur ce type de contenu, on est régulièrement confronté à des gens qui disent ben moi, j'ai pas de croyance, j'ai pas de biais, je me rends compte de mes biais. Quand on a étudié un minimum la psycho, ça paraît tellement absurde comme déclaration, mais c'est vrai qu'il faut se mettre à la place des gens qui n'ont pas du tout étudié ça et qui du coup peuvent être en même temps très très informés sur les sujets, très cultivés ou avoir du recul sur certaines choses, mais être complètement avoir une tâche aveugle complète par rapport à cette existence de biais qu'ils peuvent avoir, quoi.
Et le fin fond du problème, c'est que les gens sont très mauvais en introspection. Donc, l'introspection est une très mauvaise façon d'évaluer finalement la façon dont on réfléchit, parce que on reconstruit a posteriori nos raisonnements, et c'est pas comme ça nécessairement qu'on a pris nos décisions et fait nos jugements. Mais peut-être pour revenir à la colonisation, c'est ça. Quelque chose qui est peut-être intéressant aussi dans nos données, je trouve, c'est que pour gérer la culpabilité collective, on est obligé, en quelque sorte, d'utiliser des formes de justification, parce que après tout, comment vais-je faire pour accepter qu'il y ait eu toutes ces exactions et que moi je ne me sente pas coupable? Et donc il y a différentes solutions pour faire face à ça. Et nous, on en a trouvé plusieurs stratégies. L'une, c'est, et ça je trouvais ça assez intéressant, donc, l'une c'est de dire finalement les Belges sont comportés de façon très vertueuse. Ils ont fait des bonnes choses et donc il n'y a aucune raison de se sentir coupable. Une autre justification qui est très commune, c'est de dire on ne peut pas juger les actes des coloniaux de l'époque à partir des valeurs actuelles. C'est vraiment le relativisme moral. Et la troisième stratégie, c'est de dire que le comportement des coloniaux finalement était peu représentatif de la volonté des Belges. Donc si c'est juste quelques bad apples, comme on dit en anglais, donc quelques brebis galeuses qui ont peut-être fait des choses répréhensibles, mais la plupart des Belges, ils étaient vraiment préoccupés par le bien-être des Congolais. Donc on a regardé ces justifications. Ce qui est rigolo, c'est que clairement, plus on utilise certaines de ces justifications, et plus on va se sentir coupable. Mais les justifications qui marchent sont pas les mêmes pour toutes les générations. Donc par exemple, on constatait que pour les grands-parents, ce qui était le plus déterminant, c'était l'idée du colon vertueux, la première justification. D'accord, c'est vraiment ça qui leur parle. Alors que pour les jeunes, c'est plutôt la non-représentativité. Donc, on a des... En fait, les discours qui permettent de justifier les exactions ou le, en tout cas le fait de ne pas se sentir coupable sont pas les mêmes sur la génération. Donc ça c'est aussi une transformation un peu de la mémoire collective. Et à cet égard, quelque chose que je trouve vraiment intéressant aussi par rapport à la notion de culpabilité et qui montre qu'on peut pas juste étudier la culpabilité indépendamment du contenu des représentations, c'est que quand on interrogeait les personnes les plus âgées, ils se sentaient coupables par rapport au comportement des Belges, mais pas nécessairement par rapport aux exactions commises à l'époque Léopold II, voire après, parce que ça ne s'est pas arrêté avec Léopold II. Ils se sentaient coupables, il y en a beaucoup qui se sentaient coupables, par rapport à la décolonisation, c'est-à-dire au moment où la Belgique s'est brutalement désinvestie du Congo, et comme finalement il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans un discours un peu paternaliste consistant à dire on aidait les Congolais, on s'occupait d'eux, on les a abandonnés, un peu comme des parents qui auraient abandonné leurs enfants de façon violente. Donc il y a beaucoup dans les générations plus âgées, il y avait ce contenu-là, la culpabilité, qui n'est pas du tout présent chez les jeunes. Donc on a aussi des formes différentes de culpabilité selon la génération.
Oui, on peut imaginer, même si c'est pas, je pense pas que c'est ça un sujet que vous avez étudié, mais on peut imaginer que du côté des colonisés eux-mêmes, probablement qu'il y a aussi une palette de réactions ou de perceptions des choses, et que certains sont aussi dans des réactions très négatives, mais pas forcément tous non plus.
Ah ben tout à fait. Donc quand on interroge des colonisés, on a un discours beaucoup plus nuancé. Des anciens colonisés, mais même des jeunes étudiants congolais. Donc, il y avait finalement un discours. On a retrouvé parfois du discours anticolonial à la Lumumba, mais on a aussi trouvé des gens qui trouvaient que certaines choses marchaient mieux à l'époque, etc. Il faut aussi dire que du point de vue des Congolais, entre 1960 et maintenant, il y a Mobutu, il y a une guerre civile abominable, et donc les points de comparaison sont différents par rapport aux nôtres. Et donc c'est assez paradoxal que je pense que dans une des études, on trouvait que les jeunes congolais avaient finalement une vision moins négative de la colonisation que les jeunes belges de la même génération, quoi.
C'est vraiment intéressant.
C'est
vraiment intéressant parce que ça montre aussi à quel point c'est difficile si on veut a posteriori essayer de s'éloigner un petit peu de la subjectivité ou des narrations un peu militantes dans un sens ou dans un autre et qu'on essaye d'objectiver un peu les conséquences. Quand on entend justement ces différences de perception, on se dit c'est quand même une entreprise difficile, quoi. Si on veut objectiver un peu ces conséquences, positives ou négatives, c'est pas simple, quoi.
Ben non, donc lorsqu'on veut les objectiver, il y a aussi évidemment toujours le débat sur la réparation, quoi. Est-ce qu'il faut. Objectiver mène toujours à cette crainte que on va demander de l'argent. Et donc là, évidemment, il y a tout de suite des résistances très très fortes, surtout évidemment du côté belge. Et donc on passe en fait d'une étude qui se veut psychologique ou sociologique sur les représentations à quelque chose de tout à fait différent, où finalement, si on se dit qu'on va devoir payer, peut-être qu'on va changer nos représentations pour pas devoir payer. Il y a vraiment un problème.
C'est aussi, je pense, un intérêt des recherches comme celles que vous faites, c'est que là, vous essayez d'analyser des choses très précises, des mécanismes, d'une manière plus ou moins, tant que faire se peut, scientifique. Ce qui est encore différent que les gens qui vont communiquer sur ces thèmes, mais pour des raisons militantes, en fait, ont leur propre influence, et c'est ça qui va souvent arriver dans le public, ce sont des discours militants ou orientés d'une manière ou d'une autre, et pas forcément les conclusions de chercheurs sur le sujet, quoi.
Oui, donc tout ça, c'est clair que il faut vraiment différencier un discours politique qui peut être tout à fait légitime. Moi, je n'ai pas de point de vue à avoir en tant que scientifique sur la réparation, et un discours scientifique où nous, on essaie juste de voir globalement ce que les gens pensent. Mm-hmm. Et bon, on étudie aussi les attitudes des gens vis-à-vis de la réparation. Mm-hmm. Et là, par exemple, c'est clair que les Congolais sont plus, même s'ils ont une vision moins négative ou légèrement moins négative de la colonisation que la jeune, ils sont plus favorables à une réparation. Mm-hmm. Vous voyez? Mais pour la réparation, on a aussi d'ailleurs étudié les attitudes des Belges, et là on a en fait le même processus que ce que je décrivais pour la culpabilité collective. C'est que ça dépend de l'identification. Donc les gens qui s'identifient peu, en fait, ils n'ont pas trop de problèmes à réparer parce que ça ne leur coûte rien. Ceux qui sont moyennement identifiés, ils sont prêts à réparer parce qu'ils se sentent coupables. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et ceux qui sont fort identifiés, eux, ils sont totalement opposés à la réparation. Donc on a aussi un lien très fort entre les attitudes vis-à-vis de la réparation et la culpabilité collective.
Ok, c'est vraiment très intéressant. J'ai une petite question à vous poser aussi, qui sera un peu une parenthèse, mais je sais qu'il y a des auditeurs qui poseront cette question, qui seront intéressés par cette question, qui aussi un peu dans l'air du temps. C'est que quand on est un chercheur, qu'on essaye d'étudier ce type de contenu, est-ce que ça peut arriver que les chercheurs eux-mêmes se trouvent un peu biaisés de la manière de poser leur hypothèse ou de la manière de construire leur protocole, biaisés par leur propre motivation, leur propre vision des choses sur les contenus qu'ils vont étudier? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut éviter justement de tomber dans ces problèmes s'ils existent, selon vous?
Je pense que le mythe de l'objectivité totale du chercheur, c'est un mythe. Donc ça, c'est clair qu'on est vraiment toujours confronté à ça. Alors il y a différentes... C'est une question qui me préoccupe beaucoup et qui dépasse de loin cette question aussi.
Bien sûr.
Mais... Donc, ce qu'il faut savoir pour un chercheur... En tout cas dans mon domaine, en gros, jusqu'à très récemment, c'est quelque chose qui a changé avec la crise qui a touché la psychologie il y a quelques années, mais on avait en gros intérêt à avoir des données qui confirmaient nos hypothèses, si on avait des données non significatives, c'est-à-dire qui ne permettaient pas de rejeter l'hypothèse nulle qui n'est pas d'effet, c'était très difficile de publier.
Ouais.
Et donc, on avait tous un intérêt à publier des données qui confirment les hypothèses. C'est juste un intérêt objectif qu'on a. C'est pas pour ça qu'on est de mauvaise foi, nécessairement, mais on fonctionne d'une certaine façon. Et une fois qu'on va analyser nos données, on peut nous-mêmes être sujet à toute une série de biais divers qui font que on va faire des choix qui favorisent la confirmation des hypothèses. Et pas nécessairement en étant explicitement malhonnête, mais on fait tellement de choix. Par exemple, on peut, admettons qu'on ait un effet significatif sur une variable, mais pas sur l'autre. Peut-être qu'on peut très facilement se convaincre que finalement, là où ça marche, c'est une meilleure mesure que là où ça marche pas. A posteriori, le raisonnement motivé, ça fonctionne très bien. Et donc, comment est-ce qu'on peut éviter ce genre de problème? Il y a une première solution, c'est ce qu'on appelle le pré-enregistrement. Ça consiste à décrire notre protocole et nos hypothèses et les placer sur un site internet publiquement, ou en tout cas avec une date bien précise qui sera accessible au moment de la publication de l'article. Disons, voilà ce qu'on avait prévu. Non seulement c'est utile vis-à-vis de la communauté, mais vis-à-vis de nous-mêmes, parce qu'on est obligé de se mouiller avant, et donc avant que le raisonnement motivé ne puisse intervenir. L'autre possibilité, c'est de découpler l'analyse des données de la construction du matériel. Donc si par exemple, on est deux chercheurs, on pourrait se dire que moi je vais analyser les données de l'autre et lui va analyser mes données. Il s'en fout, moi, que je vérifie mes hypothèses. Donc lui, non, il ne sera pas victime de ce raisonnement motivé et il peut juste suivre le protocole d'analyse que j'aurais préenregistré. Et donc, je dirais que moi, je trouve que les chercheurs, ils peuvent être subjectifs dans leurs hypothèses. Ils peuvent prendre position. Le problème qu'ils doivent avoir, c'est que c'est que c'est, et même la méthode, la façon dont on pose les questions, ben, on peut essayer de le faire de la façon la plus objective possible, mais elles apparaîtront peut-être toujours un peu orientées pour les gens. Donc, ce qui est tout à fait déterminant pour moi, c'est surtout au niveau de l'analyse des données, qu'on puisse, finalement, que ce soit le plus neutre possible. Que finalement, et donc dans une étude expérimentale, par exemple, on compare deux groupes, ben, même si les questions sont un peu orientées, admettons-le, ben, si on a des différences entre les deux groupes qui vont dans le sens des hypothèses, c'est quand même quelque chose d'intéressant et d'informatif, quoi. Donc, je dirais que là, il y a vraiment tout un effort dans ma discipline pour essayer d'aller vers ça.
C'est vrai que c'est intéressant, hein, parce que c'est une thématique dont on entend beaucoup parler, je trouve, ces dernières années. Notamment aussi avec une partie de mouvement un peu militant, du côté antiraciste, antisexiste, etc., où il y a cette idée qu'il faudrait des chercheurs féministes, des chercheurs antiracistes,
travailler. Ça, c'est quelque chose contre lequel je m'insurge totalement, quoi. Donc, je peux vous donner un exemple assez intéressant dans la recherche, bon, ça n'a rien à voir avec la colonisation. Mais par exemple, moi, je travaille beaucoup sur la psycho du genre, les questions de genre, ça me passionne. Bon, je me définis comme féministe, mais je ne suis pas non plus un militant particulièrement actif. Mais en même temps, j'essaie de faire des recherches expérimentales, ou, enfin, pas seulement expérimentales, mais des recherches, en tout cas, les plus objectives possibles et sans agenda. Je ne sais pas. Je n'ai pas un objectif politique. Et donc, par exemple, avec un de mes doctorants, non, il n'est plus doctorant, post-doctorant, Philippe Bernard, on s'est intéressé à l'objectification sexuelle. Donc, la tendance à voir les femmes comme des objets, qui est un thème féministe par excellence. Et c'est presque bateau de dire on s'attend à ce que les hommes voient plus les femmes comme des objets que les hommes, que les femmes elles-mêmes. Je veux dire, c'est une hypothèse, on n'a peut-être presque pas besoin de théorie pour ça. Et donc, on a mis en place tout un protocole pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait vraiment montrer que les femmes sont perçues comme des objets. Donc, on a des mesures cognitives assez compliquées que je vais vous épargner. Mais notre protocole, qui est, à mon avis, bien fichu, une fois qu'on analyse les données, on constate qu'il n'y a pas de différence. Donc, les femmes sont plus perçues comme des objets que les hommes dans notre protocole. C'est des mannequins assez sexualisés. Mais par contre, les hommes n'avaient pas plus tendance à les percevoir de cette façon que les femmes. Et donc, moi, d'une certaine façon, au-delà de l'intérêt de ce résultat, je trouve que ce qui est bien, c'est que avec ce type de méthode assez rigoureuse, on peut finalement aller à l'encontre de ces a priori. Je veux dire, on a un discours qui semble a priori contraire à l'orthodoxie féministe, mais qui est vraiment intéressant et qu'on peut essayer d'explorer. Comment ça se fait que les femmes voient autant d'autres femmes comme des objets que les hommes, etc.
Donc ici, pour bien comprendre, le résultat, c'était que les femmes aussi voyaient les femmes comme des objets.
Voilà. Donc il n'y avait pas d'effet du sexe de l'observateur, mais il y avait un effet du sexe de la personne qu'on voyait.
Ouais. Donc les femmes étaient vues comme des objets par les hommes comme par les femmes.
Voilà, exactement. Okay. Et donc, c'est juste un exemple qu'avec une bonne méthodologie, on doit pouvoir obtenir des résultats qui vont à l'encontre éventuellement de nos préférences politiques ou idéologiques. Ouais. Et quand on fait, par exemple, des entretiens qualitatifs, c'est aussi possible d'avoir cette objectivité, mais c'est beaucoup plus difficile parce qu'on va souvent avoir tendance à trouver intéressant dans ce qui nous est dit ce qui va dans le sens de nos inclinations politiques ou idéologiques. C'est plus difficile, c'est possible, mais c'est beaucoup plus difficile. Et avec ce genre de méthode expérimentale quantitative comme celle qu'a mise en œuvre Philippe, ou même celle qu'on a essayé d'utiliser dans les enquêtes, là, on peut davantage finalement échapper au biais que nos préférences idéologiques ou politiques pourraient peser sur notre interprétation.
Ok, super. Est-ce que, par rapport à vos recherches, il y a encore un élément important qu'on n'aurait pas abordé ou une conclusion en particulier que vous souhaiteriez poser par rapport à ça?
Ben, c'est pas directement mes travaux, c'est plutôt ce qu'a fait Laurent. Mm-hmm. Mais l'étape suivante, et qui est maintenant vraiment le cœur de d'une partie des recherches qui sont faites, mm-hmm. c'est vraiment de voir le lien de la représentation de la colonisation et les attitudes des personnes issues de l'immigration par rapport à l'acculturation en Belgique. Donc comment, finalement, est-ce que finalement notre perception de l'histoire n'influence pas aussi la façon dont on est prêt à s'imaginer dans la culture d'accueil, quoi. Donc ça, c'est vraiment alors moi, je vais pas résumer ces résultats, mais ça, mm-hmm. c'est vraiment l'enjeu qui montre que ça dépasse vraiment une question de représentation de l'histoire, mais c'est une question du futur. Parce que la façon dont on s'imagine dans le futur, elle dépend de notre représentation du passé, quoi.
Oui, donc là, on a un facteur qui peut influencer l'intégration et toute la vie en Belgique de ces personnes, quoi.
Ouais, moi, j'en suis convaincu. Mm-hmm. En particulier pour la minorité d'origine congolaise, rwandaise, etc. Mm-hmm. Mais c'est peut-être vrai aussi, finalement, d'autres minorités mm-hmm. qui peut-être, par exemple, je ne sais pas, moi, des gens qui sont issus du Maroc, bah, peut-être que leur représentation de la colonisation française, elle dépasse la France, et une représentation aussi de leur rapport à l'Occident. Donc mm-hmm. il y a peut-être vraiment tout un enjeu à voir le rapport entre la représentation de la colonisation et la façon dont on s'imagine, finalement, dans le pays d'accueil. Quoi. Mm-hmm.
Oui, de manière plus large, ça pose la question simplement de la représentation de la culture d'accueil, tout simplement, qui est vraiment fondamentale.
Oui, parce que finalement, il y a un côté miroir. Donc, il y a vraiment... Souvent, on contraste une image noire du passé par rapport avec une image rose du futur. Et donc, on utilise le passé pour voir ce qui serait bien dans le futur.
Ok. Ok, ben voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Donc Olivier Klein, pour les auditeurs, je mettrai sur la page du podcast, comme d'habitude, les références de tout ce dont on a parlé, notamment des études évoquées, les autres chercheurs qui ont travaillé sur le sujet. Je mettrai aussi des liens par rapport aux autres études que vous avez publiées. Il y a plein de sujets vraiment intéressants, autour notamment de la crédulité par rapport aux théories du complot. On en a parlé un petit peu, les stéréotypes, la déshumanisation. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté à participer à cette interview. Je pense que ça sera très très intéressant pour nos auditeurs. Et voilà, je vous dis à une prochaine fois.
Merci.
Merci à vous.